Bienvenue à votre Ciné Brunch. Mon nom est Jim Boulay en compagnie de François Genet.
Bonjour.
Et de Mélina Lopez-Nado.
Bonjour.
Oui, j'ai inversé le sens, vous remarquez.
Mais oui, tout à fait. Moi j'ai remarqué, écoute, oui, ça m'a déstabilisé. Ouais.
Oui, bon, je me suis dit, hein, pour ce 99e épisode de Ciné Brunch, on peut peut-être se permettre de changer des choses.
Oh, tout à fait.
Hein, on vous dira pas ce qui s'en vient la semaine prochaine. Et oui, vous êtes à votre ciné-magazine qui s'assume Cinébrunch et comme chaque semaine, on va critiquer pour vous un certain nombre de films et on va parler des nouvelles du cinéma dans quelques instants. Aujourd'hui, au menu, on va faire encore, on y prend définitivement goût, une critique commune d'un autre film québécois, Vivre à 100 000 à l'heure, donc en deuxième demi-heure d'émission. Mm-hmm. On va critiquer à 100 000 à l'heure. Donc, le film.
Le film.
Oui,
c'est bien joué. C'est ça. Sinon, de mon côté, j'ai vu le film Celle que vous croyez. Et Mélina, tu as vu le film Judy.
Oui.
Oui. Donc, en un mot, Judy.
Judy, peut-être.
Oui, non. Judy, en un mot, Judy.
Ah, d'accord. Bon, ben, très bien.
Toi,
ah,
Jim, en un mot,
C'est un beau titre de film, ça. C'est,
ouais, c'est celle que vous croyez. Hein. C'est, oui, c'est celle ça. Que vous croyez, c'est peut-être pas celle que vous croyez. Hein. C'est ça le concept.
Oh.
En un mot, je dirais communication.
Mm. Oh là là là.
Ben
là.
Oui, c'est quelle originalité, vous me direz.
Oui, tout à fait.
Bon, donc voilà. Mais avant d'arriver à toutes ces magnifiques critiques et de parler de la pluie et du beau temps cinématographique. On va parler de la pluie et du beau temps cinématographique avec quelques nouvelles,
ça
François.
Ça a été assez rapide, je m'attendais à ce qu'il y ait un autre préambule qui ouvre la porte vers quelque chose.
Non, mais après 99 épisodes, on est beaucoup plus aguerris.
Ben,
hein.
Ben, tout à fait, hein, oui, on peut se permettre plus de laxisme.
Oui, alors sois donc oui. lax et présente-nous ta nouvelle.
Tu vois ça là, dans les premiers épisodes, ça n'aurait pas passé, mais le 99e, c'est correct, on a le droit, on peut aller là. En fait, des petites nouvelles pour vous, le gouvernement. Le gouvernement Ford en Ontario a décidé d'abolir l'Office ontarien du cinéma.
Et oui. L'équivalent de. Ben non, on n'en a pas. Y a-t-il un office québécois?
Ben oui, c'est ça, c'est l'office qui supervisait le système de classification des films. Donc, évidemment, on doit avoir ça ici aussi. Là,
oui, la régie du cinéma.
Oui, exactement, qui font ça. Donc, cette fermeture-là, c'est la première étape d'une grande réforme que compte lancer l'an prochain le gouvernement de Doug Ford en Ontario.
Qui vise à quoi? Éliminer la culture en général? C'est quoi le concept? J'essaie de comprendre. Sans aucun jugement.
Ben, en fait, ils veulent sauver de l'argent. Ils estiment que le secteur du cinéma épargnera annuellement de 1,5 million à 2 millions de dollars par année.
Énormément d'argent.
Quand même, ça va faire toute la différence.
Oui, tout à fait. Ça reste à voir si c'est une bonne décision, effectivement. Bon. C'est un peu spécial parce que présentement, en attendant la fin du processus, ils vont se fier au système de classification en vigueur en Colombie-Britannique. Donc, c'est un peu étrange quand même.
Mais il n'y avait pas déjà un système avant?
Oui. Non, mais là, pour les nouveaux films, j'imagine.
D'accord. OK, fait que ça tombera pas dans les mains de l'ONF cette histoire-là.
Non, okay. C'est ça, exactement. Et donc, il y a beaucoup de changements quand même qui touchent l'Ontario. L'Office ontarien du cinéma avait été créé par le gouvernement libéral en 2015. Son rôle était de donner les permis aux salles de cinéma et de superviser les activités de la Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario. Et là, soudainement, pouf, on n'a plus ça. Donc là, c'est un peu étrange. On va suivre ça de
J'admets
proche.
Que de 2015, c'est tellement récent que ça donne l'impression qu'il n'y en avait peut-être pas tant besoin non plus. Là, parce qu'ils ont quand même fait des films. L'Ontario a quand même géré des films pendant des années. Là,
oui, mais je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre avant, là, peut-être.
Moi, je suis l'avocat du diable.
Ça a été remplacé. Oui. Donc,
on va voir ce que
ça a donné. Parce que,
qui sait ce qui va se passer au Québec, on ne sait jamais. Hein,
oui, mais en même temps, évidemment, dans le Canada anglais, il y a tout ce côté-là aussi. On est plus proche des Américains, on est plus proche de cette culture-là. Donc, c'est aussi peut-être un peu plus facile.
C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi. québécois, c'est ça
non,
que
tu non,
dis
mais c'est peut-être un peu plus facile qu'au Québec de vouloir dire, ben, on va prendre les classifications à la limite. Pourquoi on ne prendrait pas les classifications d'ailleurs ou les permis? Bon, en tout cas, tout ça est des grandes questions qui peuvent être arrivées sur la table. Sinon, une autre petite nouvelle, parce que j'ai une belle lancée
ben, visiblement,
présentement.
Oui. C'est inarrêtable.
Je sais que, oui, tout à fait, ma mère me le dit souvent, mais je sais que les fans aguerris de Cinébrunch vont se rappeler sûrement que Mélina avait déjà parlé un petit peu brièvement de ce sujet-là, de Apple Plus, qui visait les Oscars, hein? C'est ce que tu avais dit à la fin de la saison passée pour les gens qui ont
une
mémoire d'éléphant.
Une mémoire de fou.
Oui.
Et,
incroyable.
Oui, tout à fait.
Oui. Alors, il avait annoncé 6 grosses productions, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait. Une très bonne mémoire encore là. Et là, on apprend que Apple envisagerait diffuser dans les salles de cinéma des films qui étaient conçus à la base pour leur service de diffusion en continu, ce qui marche très bien
ce que YouTube a fait récemment, avec
ce que Amazon avait fait aussi.
D'entrer dans les gros joueurs au niveau cinéma, mais quand même après de s'approprier le contenu que pour eux.
Exactement. Et c'est la question qu'on avait quand justement on disait ils visent les Oscars, mais est-ce que ça va être d'aller dans les salles de cinéma pour pouvoir aller aux Oscars ou si on va ouvrir les Oscars à tous les films qui sont
Oui, parce que pour l'instant, je pense que le meilleur film, il faut que ce soit distribué en territoire dans les salles
exactement.
De cinéma.
Donc, je pense qu'ils visent vraiment les Oscars et donc d'aller dans les grandes salles de cinéma. Et aussi, ils cherchent à aller chercher des acteurs et des gens du cinéma qui sont des gros noms. Et donc, si tu dis ton film va passer et sur notre plateforme et dans les cinémas...
Le gros nom devient un gros oui.
Oui, exactement. Très bien joué. Très bien joué. Exactement. Donc, on va continuer à suivre ça. Mais,
merci, François. Mais
ça soulève tout plein de questions.
On va voir, mais une transformation du milieu. Hein. On le sent, c'est en train de se faire. Puis on sent que des deux côtés, ça tire. Donc, on va voir ce qui va se passer. Là.
Qui va avoir... oui, c'est un peu le souk à la corde. Hein, tout à fait,
oui, mais heureusement que on va se le dire, heureusement que les festivals, ne pas dire les festivals, que les festivals continuent de tirer sur le fait que les films doivent être en salle pour pouvoir être oscarisé. Donc, tout ça est...
Mais parce que sinon, la définition de qu'est-ce qui est un film qui pourrait être en nomination devient un peu floue dans le sens où dès que
ça élimine les circuits fermés.
Ouais, ben c'est ça. Parce que là, dès que n'importe qui met quelque chose sur YouTube, par exemple, là, tu dis, bon, ben ça deviendrait un film qui pourrait être en liste. Puis là, il y a toute cette question-là de dire, je vais juste à mettre quelque chose sur Internet, puis ça va devenir un film.
Non, exactement.
Officiel.
Puis là, on pourrait tenter d'aller voir ton Facebook, qui a déjà beaucoup de productions.
Oui, tout à fait.
Oui, on pourrait les soumettre, en fait.
Oui, on pourrait les piger là-dedans.
Oui.
Ça n'aurait pas de fin. Hein.
Oui, ben c'est ça. Non, c'est pour ça qu'il y a des offices aussi
qui gèrent ça.
Et il y a des liens partout.
Tout est dans tout.
Tu vois? Fait qu'il y a des liens entre mes deux nouvelles.
Merci, François. C'était très, très long, mais très intéressant. Merci.
Très, très long. Voyons, Jim.
Mélina.
Oui, ben je vais prendre la balle au bon. Netflix qui a annoncé cette semaine qu'il y aurait une 4e saison de Stranger Things, donc 4e et dernière.
Ouais, mais ça fait une couple de fois qu'il dit que ça va être la dernière, là, mais en tout cas.
Oui, mais on verra, là, on sort de Hawkins, mais c'est très intéressant. Et petit fait comme ça, vous pensez qu'il y a un épisode de Stranger Things, ça vaut combien environ?
À concevoir?
Oui.
Oh, là là. Bonne question. Moi, je dirais peut-être par épisode, bon, 15 millions certains.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Mais non, un peu trop. En fait, on dit que ça coûterait...
Ah bon?
Ben, pour la saison 2, ça aurait coûté... Netflix ne donne pas ses chiffres, mais ils disent que, selon des gens qui s'amusent à faire ces calculs-là, que ça coûterait environ entre 6 et 8 millions
pas
par
plus
épisode.
Que ça. Ah bon?
Mais bon...
OK.
Donc,
le CGI doit être un peu moins bon dans les dernières saisons.
Oui, ça, c'est quasiment trois fois le fils ontarien.
Non, mais c'est le fun de faire des films au Netflix. On est quand même bien rémunérés.
Oui.
J'aurais pensé que ça aurait été plus haut compte tenu de l'ampleur
Mais
du
quand même par
là.
Épisode, là.
Mais oui, c'est énorme.
C'est
un épisode, c'est plus qu'un film québécois moyen.
C'est ça.
Ben, moyen, je parle pas des...
Des grosses productions.
Oui. Ah ben, impressionnant.
Quand même, hein?
Mais c'est ça, moi, à la différence de François, je fais ça court.
Mais moi aussi, je vais faire long, ça tombe bien. Donc, écoutez, moi, en fait, je vais vous parler de plusieurs choses. Première chose, je vais vous parler du réalisateur de Fast and the Furious, Bob Cohen, qui est accusé d'agression sexuelle.
Il y a beaucoup dans les accusations de réalisateurs, ces temps-ci.
En fait, il y en a tellement souvent.
Oui,
si j'en parle pas, je vais me faire dire que j'en parle pas. Donc,
exactement,
je préfère
en parler. Mais c'est bien.
Mais ce qui est drôle, à quel point ça finit tout le temps par pas aller nulle part, ces histoires-là. Donc, l'agression aurait été commise en 2015 pendant qu'une femme dont le nom demeure inconnue, une Jane Doe, comme on dit, que la femme était inconsciente. Évidemment, l'avocat de Cohen a vivement démenti les faits dans une lettre au HuffPost. Tout ça tombait un peu sur le neutre. Malheureusement pour Cohen, en plus, sa propre fille, Walkyrie Wetter, c'est ça, pas trop, en tout cas, peu importe. Maintenant, transgenre, accuse également d'agression sexuelle son père, qui aurait été porté contre elle lorsqu'elle était adolescente. Ça va pas très bien du réalisateur de Fast and the Furious, j'espère pour Louis, qu'il va vivre ce deuil avec le regard. On le salue tout à fait. Sinon, je vais vous parler du film Gemini Man qui s'en vient avec Will Smith qui va être là dans deux semaines.
Oui, tout à fait. Ça
film réalisé, en fait, la semaine prochaine. Ouais. Réalisé par Andrew Nichols qui est en fait l'un de mes scénaristes et réalisateurs préférés. Andrew Nichols qui a donné Simone, Time Out, Bienvenue à Gattaca. Il y a même plus récemment le film Anon qui a été mis sur Netflix. C'est aussi lui qui a écrit les films The Terminal, Truman Show, Time Out. C'est de la bonne science-fiction. J'ai très hâte de voir le film qui va sortir avec Will Smith, donc ça sort le 11. J'ai bien hâte et voici un petit extrait de la bande-annonce.
Je crois savoir pourquoi il est aussi fort que toi. C'est toi.
Il y a 25 ans, ils t'ont créé à partir de moi. Ils m'ont choisi parce que je suis unique en mon genre. Il faut qu'on en finisse. Tu as toutes ces capacités, la souffrance en moi. Vous avez créé quelqu'un à partir de quelqu'un d'autre. Et vous m'avez chargé de le tuer. Vous avez choisi de me faire ça. Cette chose contre laquelle tu luttes, c'est la peur. Accepte-la et surmonte-la. Il pouvait m'envoyer n'importe quel tueur. Pourquoi il t'a choisi, toi?
Alors, ouais, moi, ça m'a en tout cas. Je n'ai pas convaincu la première fois que j'ai vu la bande-annonce, mais après ça, je me suis dit, Will Smith, ça va être bien. Puis après ça, j'ai vu que c'était Andrew Nichols. Là, je me suis dit, OK, ça va être écœurant. Donc, je le souhaite fortement. Donc, je vous annonce tout de suite que je dibs la critique de ce film.
Peut-être qu'on va en faire une critique commune aussi, qui sait?
J'en doute fortement, parce qu'il y a d'autres films qui vont mériter une critique commune qui sortent.
Le Joker.
On dirait pas trop grand-chose. Oui, mais ça, c'est une semaine avant. Le Joker, c'est la semaine prochaine.
Ah,
ouais.
Tout à fait. Moi, je...
En fait, c'est sorti cette semaine, mais on le critique la semaine prochaine. Voilà.
Oui, mais on est comme ça, hein. Mes dates sont un peu...
Oui, ben voilà, mais c'est normal, François. Tu as tout mis ton temps dans la préparation de ta nouvelle. Donc,
j'ai oublié mon calendrier, là.
C'est ça. Ouais. Donc voilà, c'était la bande-annonce du film Gemini Man avec Will Smith. Ça va sortir le 11. Sinon, sur un ton plus léger que ma première nouvelle, pas vraiment que ma deuxième, ma troisième nouvelle, c'est que Tom Cruise s'est rendu en Ukraine pour trouver des sites de tournage pour son prochain film. Il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, probablement que ça se prononce comme ça. Le président était lui-même un populaire comédien avant de devenir président, et Zelensky, avait déjà rencontré d'autres acteurs, actrices, dont Robin Wright, Mila Kunis et Ashton Kutcher. Il s'est un petit peu fait reprocher par les gens de son pays de moins s'occuper des tâches importantes à l'interne et de prendre trop de temps avec
les stars de cinéma.
Donc, il y a des blagues qui circulent sur les réseaux sociaux comme quoi Tom Cruise serait peut-être en train de préparer un film sur un président destitué. Parce qu'en fait, on se rappelle que très récemment, les démocrates américains ont lancé une procédure de destitution contre le président américain Donald Trump. Et la semaine dernière, l'ont accusé d'avoir fait pression sur M. Zelensky pour écarter son potentiel rival démocrate lors de l'élection présidentielle de 2020. Donc, voyez-vous comment tout est dans tout dans ces choses-là?
Oui.
C'est assez phénoménal. Mais entre-temps, c'est votre cinébrunch qui commence. On se demande toujours ce qu'il va avoir un peu plus loin dans ce jingle-là.
On a envie de l'écouter.
On en découvre un petit peu plus à chaque semaine. Fois.
Ah ouais. Oui, c'est de toute beauté. Et Mélina, c'est de toute beauté parce que tu as été voir un film pour nous, le film Judy.
Oui, exactement. Donc, c'est un film américo-britannique, comme on dit, c'est une biographie dramatique sur l'actrice et chanteuse Judy Garland. Et donc, c'est ça, ça a été réalisé par Rupert Gould et c'est adapté d'une comédie musicale qui s'appelle End of the Rainbow de Peter Quill. Donc, on va parler du film en premier.
Oui.
Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film-là. En premier, qui joue le rôle de Judy, c'est Renée Zellweger. Donc, vous savez, l'actrice qui est quand même très connue, qui est vraiment bien transformée en Judy. Parce qu'elle ressemble vraiment
Mais
elle ressemble beaucoup à
Judy. Mais elles sont de meilleur en meilleur hein, pour personnifier des personnes avec d'autres personnes.
Hein. Wow. C'est incroyable.
Hein? Oui, c'est une très belle phrase, mais on a compris le message que tu tentais de livrer.
Ça s'améliore, oui.
Donc, Judy Garland, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui, en fait? C'est, donc, comme je disais, une actrice et une chanteuse. Mais vous souvenez-vous, quand André Jean nous parlait de l'histoire du cinéma américain, il nous avait parlé beaucoup de la MGM. Il y avait trois studios principaux à cette époque-là. Donc, on parle dans les années 30, il y avait la MGM. Et elle, dans le fond, elle a été prise par Louis B. Mayer de MGM, Mayer.
Le Metro-Goldwyn-Mayer. Ouais.
Exactement. Mm-hmm. Donc, à 13 ans, elle a passé, parce qu'à cette époque-là, tu auditionnais pour un studio et eux te donnaient des contrats. Donc, elle a été...
Chose qu'on va peut-être... Époque, on revient un petit peu à ça avec Netflix qui donne des contrats en disant « Tu fais 6 films avec nous. »
Dans ce style-là. Puis, ils contrôlaient vraiment tout ce qui est l'image publique, l'apparence. Et même, en fait, Judy, c'est une enfant actrice, si on veut, elle est rentrée à 13 ans. Et il trouvait qu'elle avait tendance à prendre un peu trop de poids. Donc, à un moment donné, je pense que pendant un an, tout ce qui lui servait, c'était du bouillon de poulet pour pas qu'elle engraisse. À un moment donné, ils ont prescrit des amphétamines pour qu'elle puisse supporter les longues journées de tournage, parce que des fois, elle faisait des 18 heures par jour. Et aussi pour qu'elle reste mince, parce qu'elle avait tendance à vouloir manger. Puis à un moment donné...
Elle avait tendance à vouloir manger.
Mais comme une personne normale.
Cette fameuse tendance qu'on a là, à vouloir vivre.
C'est ça.
Ça aurait l'air qu'elle respirait en plus.
Ensuite, comme elle n'arrivait pas à dormir le soir, ils ont prescrit des barbituriques ou je ne sais pas quoi pour l'aider.
Barbituriques
pour l'aider à dormir le soir. Très jeune. Donc très jeune, elle est devenue...
C'est vraiment intense.
Oui, c'est vraiment intense parce que c'est vraiment... le studio qui l'a rendu comme ça.
Il y a eu un contrôle assez phénoménal sur les artistes à cette époque-là.
Vraiment, il fouillait même les poches de ses amis pour éviter qu'ils prennent des friandises. Oui, puis qu'ils donnent
mais
en cachette. C'est vraiment intense. Donc, on peut... Elle est morte quand même très jeune. Elle est morte à 47 ans quand même. Elle avait l'air déjà très maganée par la vie parce qu'ensuite, ça, c'est... Elle est restée toxicomane à vie, je veux dire, elle est restée coincée avec ça. Puis à un moment donné, les studios, ils l'ont droppé, puis ils ont arrêté de lui donner des contrats.
Elle était coincée avec sa dépendance.
Exactement. Puis vous savez, elle a fait quand même des gros rôles, là, le magicien d'Oz. Elle a fait aussi une étoile aînée qu'on a repris cette année, l'année dernière, je veux dire, avec Lady Gaga. Ouais. Elle a fait donc ces versions-là. Et à la fin de sa vie, elle se concentrait plus à donner des prestations de chant, c'est-à-dire chanter. Et donc, le film, de la façon qu'il est construit, on la voit beaucoup à la fin de sa vie, dans la dernière année environ, où elle donne sa série de concerts à Londres. Donc, ses derniers concerts qu'elle a donnés. Et on fait quelques retours dans le temps à l'époque où, justement, elle était âgée de 13-14 ans.
Pour essayer de comprendre un peu... pourquoi on est rendu là.
Exactement. Donc, on va aller écouter la bande-annonce.
Pardon d'arriver si tard.
Mademoiselle Garland.
Pas de manière. Appelez-moi Judy.
Je suis vraiment désolé, mais nous avons dû libérer votre suite.
Quoi, libérer ma suite? Elle était prisonnière?
Il semble que vos notes ne nous aient pas été réglées.
Clang, clang, clang with the trolley.
Maman, s'il te plaît, dors pas tout de suite.
Non, celles-ci, ce sont les autres.
Ils ont besoin d'un foyer, Judy.
Leur mère, c'est ça dont ils ont besoin.
On va tout de même pas laisser la plus grande star du monde sans rien avoir.
Frank Sinatra est ici.
Frank est génial, mais il n'est pas Judy Garland.
J'ai plus de maison, même du mal à trouver un impresario.
Si tu partais à Londres, tu serais grassement payé. Le type dont je t'ai parlé, il veut absolument entrer en affaire avec toi.
Donc tu veux dire qu'il faudrait que je quitte mes enfants si je veux gagner suffisamment d'argent pour élever mes enfants? Oh, j'aimerais tellement rester ici.
Ben voilà.
Et voilà donc la bande-annonce du film de Judy. Donc on entend un peu dans la bande-annonce qu'en fait, rendue à cette période-là où le film débute, elle n'a plus d'argent en fait. carrément, elle a de la misère à se trouver un impresario, comme on dit. Elle a de la misère à avoir des rôles, elle n'a plus d'argent, elle se fait mettre dehors de l'hôtel où elle réside.
Ouais.
Et c'est là qu'elle prend la décision donc, de partir à Londres pour donner une série de concerts.
Mais donc, on a entendu, dans le fond, c'est très, très... L'histoire semble assez dramatique dans le sens où il n'y a rien qui va bien dans sa vie, là, je pense. Il n'y a pas grand-chose qui va bien.
Il n'y a pas grand-chose, non.
Mais on s'entend que dans la bande-annonce, le son qu'on entend, la musique est très festive. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un clash comme ça dans le film? Y a-tu...
Quand même, parce qu'on a beaucoup de... Ben, c'est-à-dire, non pas assez... Et c'est un des gros... tu sais, d'entrée de jeu, je vais le dire, j'ai dénoté plusieurs problèmes avec le film. Autant, je pense qu'on aurait pu avoir un film vraiment, justement, joué avec beaucoup d'aspects pour rendre ça encore plus intéressant. Je trouve que d'un point de vue du scénario, de la réalisation, on aurait pu faire plus. Maintenant, c'est inspiré d'une comédie musicale, donc c'est sûr qu'on respecte un peu la vision de la comédie musicale à la base. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, ces chansons sont très... bon, on est dans les années 40 aussi, c'est le style de musique, mais on a une femme qui souffre énormément. Et on voit beaucoup l'enfant entre elle, c'est-à-dire quelqu'un qui est extrêmement seul, qui a besoin d'affection, qui est dépendant quasiment à la scène d'avoir cet amour-là du public.
C'est ça, ça fait partie. Si tu enlèves ça, tu enlèves tout aussi.
Là. Un peu, ouais. c'est ça qui est quand même triste.
Puis il y a aussi ce clash-là de dire, quand t'es sur la scène, tu peux pas montrer que t'es...
Ouais, c'est le show business. C'est le show business.
Exactement. Fait qu'il y a le côté folie, de dire, il y a toujours dans ta vie un côté très joyeux que t'es obligé de montrer, mais au final, les gens savent pas qu'en arrière d'une grande star que tout le monde voudrait donc bien être, en arrière de ça, il y a de la misère, puis en arrière de
Elle a quelques prestations qui vont pas très bien, où justement elle arrive, elle a trop bu d'alcool parce qu'elle a rendu à cet âge, elle boit énormément d'alcool aussi. En plus des différentes drogues, elle est pas capable d'avoir une vraie nuit de sommeil. Elle mange, on la voit pas manger dans le film. Elle mange pas, elle met comme un clou. C'est... Puis c'est ça, elle a des prestations où des fois carrément elle va envoyer chier le public. Puis je veux dire, c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, c'est quelqu'un de très instable, puis je pense que le film aurait pu mettre l'emphase là-dessus d'une autre façon. Maintenant, comme je dis, c'est inspiré de la comédie musicale. Ouais. Ça reste que c'est super intéressant parce que ça nous donne une vue du Hollywood de ces années-là, Hollywood des années 40, dans les quelques scènes où on la voit jeune. Ça, j'en aurais pris plus. On n'a pas beaucoup. On a quelques flashbacks à différents endroits dans le film, mais c'est pas constant. C'est peut-être un 10% des scènes qui se passent dans le passé, mais sont pas... sont pas amenés de... sont dispersés drôlement,
sont pas chronologiques,
en fait.
C'est
ça. Puis c'est comme, à un moment donné, t'en as plus rapproché, à un moment donné, t'en as plus, tu te dis, bon, le flashback est fini, on revient maintenant, on reste peut-être 45 minutes dans le maintenant.
Ouais, c'est pas égal.
Non, c'est ça, c'est pas égal, c'est réparti de façon étrange. Je sais qu'on veut aller montrer des choses, mais je pense que ça aurait pu être approché de façon différente parce que je pense que il y avait, en tout cas chez moi, un grand intérêt à voir aussi quand elle était jeune, comment ça se passait justement dans le studio, parce que tout ce côté-là est extrêmement inhumain. Puis, on le retrouve aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, le Hollywood d'aujourd'hui peut faire ça aussi aux jeunes acteurs, juste pas de la façon dont les studios le faisaient.
Non, c'est ça, c'est un peu plus caché dans le sens où c'est pas comme le studio qui le donne nécessairement, mais c'est sûr que cette gloire-là, c'est un peu con à dire, mais juste une entrée d'argent qui est si importante en si peu de temps.
Et qui n'est pas fixe non plus.
Mais là, ça fait que tu dis, oh, je peux m'acheter n'importe quoi. Puis je dois faire quelque chose avec tout l'argent, puis après ça, t'as plus rien.
Ah non, c'est difficile, hein?
C'est pas simple, tu sais, le rapport avec l'argent. Là.
Non, c'est ça.
C'est vrai, le problème du show business en général.
Ouais. Mais encore plus quand t'as un enfant, justement.
Mais justement, tu sais, puis que sa mère, on la voit pas vraiment dans le film, mais de ce que Louis B. Mayer, qu'on voit justement dans le film, à un moment donné, il dit, ta mère, tout ce qu'elle fait, c'est écouter qu'est-ce que moi je lui dis. Tu sais, elle a comme pas vraiment de personnes qui la soutiennent même quand elle est âgée de 13 ans ou même quand elle est à la fin de sa vie à 46 ans, tu sais. Mais sinon, sur le film en tant que tel, c'est ça, comme je disais, je suis pas sûre au niveau du scénario. Sinon, au niveau de la performance de Renée Zellweger, c'est une performance qui est quand même intéressante parce que elle joue une Judy Garland qui a beaucoup de mimiques physiques, de tics nerveux. Ouais, comme une personne qui a tendance à trop consommer d'alcool, mm-hmm. justement, des fois, va shaker, va être tout ça. Mais des fois, on dirait que il y en avait trop, ou je sais pas, on dirait que tu sais, assez que je décroche, puis que j'observe, puis je me dis « Ah, waouh, ça doit être un gros travail d'acteur pour elle d'intégrer ces mimiques-là dans son corps. » Mais si je me fais la réflexion sur ça,
c'est
parce qu'il y a quelque chose qui est pas crédible, tu sais, ou que tu vois qu'elle fait. Donc là-dessus, j'étais pas tellement certaine. C'est sûr qu'il y a beaucoup de musique live où on la voit performer. Comme d'habitude, les musiciens m'ont absolument zéro convaincue.
Encore désynchronisée.
Désynchronisée. Puis là, c'est encore pire parce qu'on l'a, elle, et on a tous les musiciens en arrière. Donc, moindrement qu'on est sur elle, en plan pied, généralement, on voit tous les musiciens en arrière. Mais là, tu vois le drum, puis là, il fait un solo de drum, puis sur la vidéo, il fait juste donner des petits coups. Puis à un moment donné, tu le vois taper sur des cymbales, mais il n'y a pas le son qui va avec. Donc,
ça m'insulte.
Ça, ouais.
Franchement, ça, tu fais des films sur des chanteurs, des musiciens, des trucs comme ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Moi, à mon avis, là, ça, c'est...
Mais c'est d'autres choses qui m'ont fait décrocher. C'est pourquoi ce film-là, j'y donne quand même un 6.5 sur 10. Je pense que c'est un film qui peut être apprécié, vraiment. J'ai quand même apprécié. Mais il y avait, selon moi, des choses qui manquaient. Mais je veux pas non plus juger trop sévèrement le film, puisque inspiré d'une comédie musicale. Donc, c'est où la limite, à partir de quand est-ce que je commence à juger la comédie musicale et non le film? Fait que pour le film, tu sais, je pense que pour ceux que ça l'intéresse, d'avoir accès à ça, de voir un peu le personnage, la souffrance, tout ça, allez-y. Mais... on a vu vraiment dans les dernières années des films beaucoup plus réussis, biopics sur des chanteurs, des artistes. J'en ai vu vraiment qui réussissaient à...
Il y en a tellement, c'est une popularité. Il en sort 2-3 par année, ces temps-ci. Là, il y avait Queen, il y avait...
il y a eu Elton John
cette année.
Qui était flamboyant comme film.
Oui, il y en a eu d'autres. Là, beaucoup il y a eu la comment il s'appelle, Pauline Julien, c'est quoi son nom? En tout cas, je pense.
C'était pas Clémence Desrochers.
Non.
C'était Pauline Julien.
Il y a Pauline Julien, Barbara.
Celle qui turlutait, là.
Oui, la Bolduc. Il y en a eu beaucoup. Là aussi, d'ailleurs, les violons n'étaient pas synchronisés avec la musique. Ça, c'est une autre histoire.
Je pense qu'on aime ça, en apprendre plus sur les vedettes parce qu'on les idéalise peut-être d'une certaine façon. Je pense que ça peut être intéressant. Dans ce film-là, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est sa solitude, son manque de système de support. Puis je vais juste terminer en donnant un petit exemple. Il y a un couple qui vient la voir à chacun de ses spectacles. Et vous savez, il y a des gens, des fois, qui attendent dehors pour rencontrer l'artiste. Donc, ils sont tout le temps là, semaine après semaine. Puis un soir, ils sont là, puis ils la félicitent, ils donnent un bouquet de fleurs encore. Puis là, elle leur dit « Mais ça vous tente pas d'aller manger ensemble? » Puis là, ils font le tour des restaurants, puis tous les restaurants sont finis. Donc, elle se retrouve chez eux, dans leur appartement, pendant qu'ils cuisent un œuf. Mais pour eux, c'est hallucinant parce que c'est
une expérience,
Judy
là.
Garland. Ouais. C'est comme tu reçois pas Céline Dion à manger des œufs chez toi parce qu'elle a faim. Mais juste pour montrer la solitude. Là.
Vraiment intéressant.
Ouais.
Wow. Ben voilà, 7.5. Hein,
c'est ça? 6.5.
Bon. Ouais. Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
De retour à Cinébrunch, visiblement, hein, le 99e épisode me fait un peu d'âge. Et vous êtes donc toujours à l'émission Cinébrunch en compagnie de Jim Boulay, Mélina Lopez-Nadeau et François Genet.
Bonjour! Non, c'est pas le moment,
on a déjà fait ça.
Et jusqu'à midi, on vous présente donc on va parler en fait de ce film Vivre à 100 000 à l'heure dans quelques minutes. Juste avant, je vais faire une courte... critique du film Celle que vous croyez, le drame franco-belge du réalisateur Safi Nebbou. Le film met en vedette la prolifique Juliette Binoche et François Civil, qu'on a vu dans Retour en Bourgogne il y a quelques années, mais nous avons critiqué le film. Et Juliette Binoche incarne donc le personnage de Claire, une femme dans la cinquantaine qui enseigne la littérature à l'université. Elle se remet plutôt mal de sa séparation, de son divorce avec son mari Gilles, parce qu'il l'a laissée notamment pour une relativement plus jeune femme, donc dans la vingtaine, après un bon 20 ans de mariage ou d'union là, avec elle. Donc, elle se fait quand même un amant, Ludo, mais malheureusement, il est juste là pour le fun et il veut pas d'engagement sérieux avec une femme de son âge. Donc, d'abord, pour se rapprocher de Ludo, Claire décide de se créer un faux compte sur les réseaux sociaux empruntant un nom fictif, le nom de Clara. Et personnifiant une jeune femme de 24 ans, elle devient vite amie avec le colocataire de son ex-amant. Il s'appelle Alex. Et Alex va tomber très vite amoureux, fou d'elle. Évidemment, elle n'a ni l'âge ni le physique qu'elle prétend avoir. Et tout ça va se transformer en spirale qui n'ira pas nécessairement dans le meilleur. Donc, tout ça, c'est la prémisse du film. On va écouter la bande-annonce.
Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur? Pour des gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau. On surnage dans le virtuel.
Ça va, Claire? T'as des soucis?
Rien, mais c'est un jeune qui s'emballe. Je pouvais pas lui refuser cette photo.
Pourquoi?
Ça m'excitait, je crois. J'allais donner un vrai visage à Clara Antounès. C'est Clara.
T'as une voix très jeune.
Et ça vous faisait rien de savoir qu'Alex avait dans la tête une autre femme?
Je faisais pas semblant d'avoir 24 ans. J'avais 24 ans.
Je crois qu'il nous arrive quelque chose.
Toi, t'as rencontré quelqu'un.
Je remonte tout doucement sur ton sein.
Je me laissais aller jusqu'à me sentir plus Clara que Claire.
Donc oui, alors voilà, quand même particulier. Hein, à l'audio, oui. Je trouve que la bande-annonce est encore meilleure que visuellement.
Mais est-ce qu'elle parle avec un médecin à un moment donné, avec un psychologue?
Alors, ben, c'est ça. En fait, ben, je y viens dans un instant. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'était la prémisse du film, ce que je vous ai dit, dans le sens où ça dure à peu près une demi-heure. Le reste du film, c'est beaucoup plus profond. Ça nous amène dans des schémas vraiment, justement, des schémas émotionnels, disons, très intenses. Ça nous fait naviguer à la fois dans le monde des communications interpersonnelles qu'on a à l'ère numérique, mais ça nous fait aussi vivre les tourments d'une femme de 50 ans qui n'aime plus son corps. Ça nous fait vivre la transformation d'un corps humain ou des corps humains avec l'âge d'une autre façon. Ça va vraiment loin. Ça nous fait voir l'importance du désir avec ou sans relation. Surtout, dans mon cas, là, honnêtement, le film me fait apprécier ma jeunesse, pourvu qu'elle dure encore un peu. Et je suis plus le même gars depuis que j'ai été voir ce film.
Wow.
Comme ça, je vous garantis de ça. J'ai vécu une transformation à travers ce film-là. Je dirais pas que c'est un film extraordinaire, puis je veux dire...
Est-ce que tu vas changer ton nom aussi pour Clara? Peut-être.
Non, mais ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Ouais. Ça m'a beaucoup inspiré créativement.
On va passer de Jim à John.
Ce film-là donne envie d'écrire. Ce film-là donne envie de... Ouais, ce film-là est extrêmement stimulant à ce niveau-là. C'est assez rare de voir ça. Et comme il a posé la question tout à l'heure, il faut savoir que tout ce film est encadré dans le sens que l'histoire nous est racontée dans un dialogue entre elle et son médecin, psychologue, psychiatre, là, peu importe.
Okay.
Là-bas, c'est plus médical. Et en réalité, c'est ça. Ça peut sembler très cliché pour un film français là, d'avoir la confidence, un film qui est une confidence à un psychologue. Il y en a tellement des films comme ça. Ouais. Mais ce film-là réussit très bien systématiquement à s'approcher de tous les clichés possibles, mais à nous surprendre au moment où on s'y attend pas et à ne pas les suivre. Pas les suivre de la même façon, si on veut. Et ça, c'est vraiment un point très positif de ce film-là. Moi, je peux presque rien dire sur ce film-là parce que tout serait divulgâché, tout est dans les rebondissements. Ce film-là est rempli de rebondissements. On s'attend vraiment pas à ce qui se passe dans le film. Même si on pense qu'on l'a deviné, c'est pas tout à fait ça qui arrive. Ce qui est un peu triste, c'est que ça, je peux pas rien dire sur le film vraiment.
Mais ça donne envie d'aller le voir.
Moi, oui, je vous dis honnêtement, allez voir ce film-là, ça m'a fait un... C'est tellement intense ce qu'on vit en voyant ce film-là, si on est réceptif, évidemment, je pense qu'il faut l'être. Pour être honnête, j'étais le plus jeune de la salle. Je vous dirais que c'est un film qui est à voir quand même, peu importe l'âge. Je donne un 9 sur 10 à ce film-là.
Wow.
Une grosse surprise pour moi. J'avais pas vraiment d'attente. Même honnêtement, j'avais un peu l'impression que ça allait être plate. Non, je me suis amusé et ce film-là est une grosse surprise qui s'amuse à frôler les clichés sans jamais succomber. Wow. C'est un film de toute beauté. Le film, donc, s'appelle... Celle que vous croyez.
Tu as dit que c'était pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a quand même un âge où que t'apprécierais plus, dans le sens où est-ce qu'il y a quelqu'un de 13 ans apprécierait?
Non, quelqu'un de 13 ans va s'ennuyer là, considérablement, ouais. Mais je pense que quelqu'un dans la début vingtaine va peut-être avoir certaines remises en question sur sa vie, des choses comme ça. Puis je pense que c'est sûr que le film va cibler des femmes de 50 ans et plus qui ont ces remises en question-là au niveau de l'âge, qui sont dans l'espèce de période où ils doivent commencer à s'adapter à ce que c'est de vieillir, d'avoir un corps vieillissant dans un contexte où on n'est plus en couple ou où on se retrouve à être divorcé ou veuf ou peu importe. C'est une réalité qui est difficile. T'sais. On n'a pas encore l'âge d'accepter ces changements-là souvent. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les films. Ben, dans ce cas-ci, on pousse plus loin cette réflexion-là. C'est vraiment très intéressant. Moi, je recommande d'aller voir ce film-là absolument. Wow. Il y a des bons films au cinéma cette saison. Il faut en profiter. Donc voilà, c'était tout pour ma critique. Reste avec nous. Et sur ce beatbox, vous êtes toujours à Cinébrunch et à Cinébrunch. Merci. Et à Cinébrunch, on n'arrête pas de faire des critiques communes depuis quelques semaines. Mais je trouve que ça fait des moments agréables en votre compagnie.
Oui.
Et j'ai sûrement pour nos auditeurs aussi qui aiment avoir ces réflexions-là à plusieurs, c'est toujours plus intéressant. Alors, le film qu'on a été voir cette semaine pour vous, c'est le film « Vivre à 100 000 à l'heure ». C'est ça, oui.
Oui, c'est tout à fait.
C'est un film québécois, encore une fois.
Film québécois, encore une fois, oui. C'est le deuxième deuxième en trois semaines. Ouais. Québécois, donc... d'entrée de jeu, François, je pense que c'est le moment de nous parler de ce film.
Oh, bien joué, Jim. On va... Le synopsis, on va en parler rapidement, mais de toute façon, on va parler de ce film-là et des événements un petit peu pendant la critique commune, fait que j'ai l'impression qu'on va pas s'éterniser non plus sur le synopsis. Rapidement, Louis, Éric et Daniel sont inséparables, ils sont des jeunes téméraires qui vivent à 100 000 à l'heure. Là. C'est un peu le but du titre du film. Les jeux d'enfants prennent soudainement le chemin du petit crime un peu désorganisé. Évidemment, il y a de l'amitié, mais aussi de la vente de potes et d'autres trucs aussi à travers tout ça. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on se retrouve dans ce film-là. On peut aller voir tout de suite la bande-annonce et après ça parler de la distribution.
On va l'entendre. Peut-être la voir, c'est un peu plus difficile à la radio, mais bon, voilà. Écoutons ça.
Ça ferait 7 grammes qu'on vend à 15 piastres.
On va pusher.
Ah, cool!
Du goût du chimique, du LSD.
Beaucoup. En moins d'un an, on avait pris le contrôle sur une école de 3000 étudiants.
Wow! Qu'est-ce que vous faites en cachette?
Vous fumez du pot?
T'es pas mon point?
Non, certain. Parce qu'avec moi, tu marcherais direct en esti.
À 15 ans, en secondaire 4, on menait la grosse vie. Ça marchait en maudit, notre affaire. Un peu trop, peut-être.
Parce que si pas ou ma apprennent que tu vends de la dope, tu vas les briser. Puis si tu leur fais de la peine, tu vas me trouver sur ton chemin.
Puis ce qu'ils font là, les autres? T'as juste à dire non, les gars, ce soir, je reste avec ma blonde. Je te jure, c'était la dernière fois que tu me faisais ça.
Elle a tenu sa parole. C'est un peu flou aujourd'hui. Mais quand on est sortis, on avait changé. On n'était plus des ticus qui cherchaient l'aventure.
Okay.
Ça a été le début de la fin.
Ouais, donc le film « Vivre à 100 000 $».
Tout à fait. Discussion, le personnage principal, qu'on pourrait dire un peu, c'est Rémi Goulet qui tient le rôle principal là-dedans. On peut voir Antoine Lécuyer qui joue aussi là-dedans, avec Elia, Patrice Baudelot, Marie-Hélène Thibault, Benoît McGuinness. Il y a beaucoup d'acteurs quand même.
Il y a plein de visages. Ou de visages connus
dans ce film-là, tout à fait. Oui. Réalisation de Louis Bélanger, qui nous avait affaire Gaspard Blues, entre autres, bon réalisateur québécois. Mm-hmm. Et c'est là que je me suis posé la question, je me suis dit, mon doux, Le réalisateur s'appelle Louis. Le personnage principal s'appelle Louis.
Moi aussi, je me suis posé la question, François.
Et finalement, moi, j'ai cherché un petit peu sur les internets.
Est-ce biographique?
Et oui.
Oh, c'était certain. C'était certain.
Exactement. C'est autobiographique un peu, quand même. Parce que ce film-là, il s'en va à des endroits, c'est un peu intense, c'est élevé, c'est rude un peu. Il se passe des événements pas toujours jojo, comme on peut dire.
Oh, oui.
C'est un peu tough. Mais il s'est basé vraiment sur sa vie. C'est pour ça que Rémi Goulet, il prenait quelqu'un qui lui ressemble. Ça prenait quelqu'un qui lui ressemble.
Ouais.
Même son frère, des trucs comme ça. Il essayait vraiment que ça
soit crédible.
Ça marche
avec
quand même.
Ce qu'il a vécu. Ouais.
Exactement.
Ouais.
Évidemment, il a rajouté un peu de fiction là-dedans. Mais quelle partie de la fiction?
D'après moi, c'est l'espèce de mur qui allume là, de couleurs.
Oui, je sais, il y avait un mur, un écran de couleurs. Là,
qui aujourd'hui est très facile à reproduire avec des LED. À l'époque, ça devait être autre chose.
Mais
là.
Exactement, ça, je sais pas. J'ai pas embarqué dans ce mur-là.
Non, si loin? Moi, j'ai vraiment... Pour moi, le film est vraiment représenté par ce mur.
Par ce mur-là de lumière.
Oui. Oui.
Donc, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça comme étant... OK, c'est une autobiographie presque.
Mm-hmm.
En fait, c'est une autobiographie.
Ben, de toute évidence,
c'est,
oui.
C'est pas...
Peut-être une autofiction. Là, mais
oui,
d'après moi, il y a pas mal plus de vérité que de fiction. Il peut-être exagéré des choses pour le rendre plus cinématographique.
Oui, exactement.
Peut-être le rythme et tout ça. Là. Mais non, en tout cas, moi, je trouve que les circonstances étaient trop... Il y avait trop d'éléments crédibles ensemble. Très trop d'éléments qui se tenaient... Un film n'aurait pas eu tendance à faire ça. Un film de fiction peut.
Il y a aussi des affaires, des fois, très précis qui arrivent, qui ne font pas nécessairement avancer l'histoire, mais qui sont corrects, qui marchent, mm-hmm. là, qui ne font pas nécessairement ralentir, mais tu fais juste genre, OK, pourquoi ceci est arrivé? Ça doit être vrai, j'imagine. Parce que sinon...
Parce que ça sort de nulle part. Là,
ça sort un peu de nulle part, mais ça marche. Donc, si c'est vrai, tu dis, OK, oui, je comprends la patente. Même si à la fin, j'ai cru lire au générique comme quoi que c'est marqué aucun nom de personnage et lien avec la réalité. Ouais. Il me semble que j'ai cru lire ça, mais en tout cas, peut-être c'est mes yeux aussi, mais c'est ça. Donc, ça m'a fait penser, moi, à Ricardo Trogi. Les films de Ricardo Trogi, on est un peu là-dedans.
Avec la narration.
On est dans une narration
racontée
en disant « j'ai vécu ça
mm-hmm. »,
le personnage plus vieux se rappelle, et donc on a trois époques, entre guillemets, trois fois le même personnage, étant très très jeune, étant adolescent, puis étant un peu plus vieux, parce qu'on s'entend que Rémi Goulet n'est pas non plus très vieux. Là.
Non.
Ils l'ont fait un peu vieillir.
C'est ça. Il y a trois acteurs
exactement,
par personnage.
Il y a trois acteurs par personnage. Tout à fait.
C'est ça, parce que ça se passe à plusieurs époques. Moi, j'aimerais qu'on parle du fait que ce film-là, bon, justement, ce film-là est chronologique. Donc, déjà, on va se le dire, il part de l'enfance et il se rend presque jusqu'à aujourd'hui. Là.
Ouais.
Et il est comme en trois phases, donc l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, on pourrait dire ça comme ça.
Ouais.
Le film commence extrêmement léger, à mon goût. Même, ça donne un peu l'impression, quand on écoutait juste le début de la bande-annonce, on se sentait dans un 1991
ça,
de Trogi.
C'est assez léger.
Quelque chose de léger, humoristique.
Dans les petites blagues un peu d'enfants.
D'enfants de ruelle, de la ville.
Ouais.
Finalement, c'est pas du tout ça que le film devient. Alors, je pense que ça vaut la peine d'en parler. On va pas voir ce film-là comme une comédie, sinon on va être assez surpris. Moi, c'est mon cas. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus léger que ça. Je me confesse, j'ai pas regardé toute la bande-annonce parce que j'aime pas me spoiler.
Moi, je l'avais vu au cinéma, en fait, la bande-annonce. L'avais vu avant un film et je sentais
toi,
le côté dramatique.
Tu vas voir des films en français souvent, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça que les films québécois peuvent apparaître plus souvent.
Oui.
Mais je sentais un peu plus le côté dramatique qu'il pouvait y avoir dans la bande-annonce. En tout cas, du moins, moi, je l'ai ressenti.
Pourquoi la musique n'est pas du tout dramatique. La petite guitare...
Oui, c'est ça.
En tout cas, mais le film commence légèrement. Je pense que la première demi-heure n'est pas du tout troublante,
n'est pas du tout
dramatique. Peut-être à la limite une ou deux scènes un peu intenses.
Oui, oui.
Qui, encore là, on se pose la question. On n'aurait pas inventé ça si ça n'avait pas été vrai.
Exactement. Ça fait un peu mal à regarder, mais c'est fait de façon léger.
Léger. Moi, ce qui me fascine de ce film-là, c'est... Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sens une volonté du réalisateur qui est aussi probablement de sa vraie vie, de vouloir peut-être justifier ou de vouloir un peu expliquer que des petites choses amènent à d'autres choses. Expliquer l'espèce de concept d'induction, d'événements de l'enfance puis de l'adolescence qui amènent à différentes décisions puis des circonstances. On était au bon endroit au bon moment pour qu'il arrive telle chose, ou au mauvais endroit, au mauvais moment pour d'autres. Tout ça est vraiment bien amené, à mon avis, était vraiment intéressant, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais non, t'as presque pas entendu. À toi le micro.
À moi le micro? Ben, sur ta question particulièrement, je sais pas trop, mais moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est vraiment le ton du film. Donc, vraiment, pour moi, ça, c'est une grande victoire. Les acteurs étaient aussi quand même bons. Étonnamment, là, c'était quand même... J'avoue que...
Les jeunes un peu moins, à mon goût, là, mais ouais.
Mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans ce film-là, c'est quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte, parce qu'on est quand même proche dans l'âge, c'est-à-dire qu'on passe de comme 14 à 19, puis ils ne se ressemblent pas assez.
Mais à part le personnage principal qui se ressemble
un peu.
Moi,
je trouvais qu'il ne se ressemblait pas, parce que
mais l'autre... Moi, c'est la voix grave du
on a comme trop mué, là.
Oui, exactement. Si tu passes, t'es dans l'adolescence, il est ultra grave, puis après ça, Rémi Goulet, qui n'a pas une voix si grave que ça. Là, c'est comme ça passe de très grave à...
Puis tu sais, le teint de peau est complètement différent. Les cils sont complètement différents. Moi, ça n'a pas marché pour moi.
Tant les cils, c'est là qu'on accroche. On accroche aux cils.
Ah, mais ça m'a vraiment beaucoup accroché pendant le film. Oui, oui, oui. Puis je me dis, tu sais, rendu là, rajeunir... Je veux dire, je sais pas. Moi, ça m'a sorti de mon immersion. Personnellement. Ouais. Tant qu'à
moi
ça,
aussi,
utilise...
Au début, à un moment donné, j'étais un peu... Ça, c'est lequel? Là.
C'est ça, exactement.
Moi, j'étais plus sûr.
Moi, je pense que...
Non, mais rase-les, puis on va l'air plus jeune.
Peut-être,
là,
effectivement, que deux... Surtout que Rémi Goulet a une babyface, là, on s'entend. Là. Ouais, il peut avoir une babyface. Fait que moi, j'aurais fait juste deux personnages. Ouais. Un personnage pour le vraiment jeune là, genre 5 ans, peut-être, 6 ans, je sais pas trop. Puis après ça, un autre que t'es capable de...
Tu rajeunis un peu plus.
Le rajeunir un petit peu, puis vieillir un petit peu plus pour de l'autre côté. Puis après ça, t'es capable de jouer avec ça. T'sais, anyway, Antoine Lécuyer avait des fois des moustaches, pas de moustaches.
Ça,
on jouait un peu avec pour montrer les époques un peu, pour montrer l'avancement.
Ouais, mais ça marchait pas. Puis l'affaire de moustache, moi,
ouais, ben c'est ça. Mais moi, à un moment donné, c'est parce que là, tu regardes,
on a juste
temps,
l'impression qu'il
n'y
a plus de moustache,
temps.
A changé son linge, mais c'est tout. Là. Ouais, c'est on ne sent pas la coupure temporelle du
coup. Exactement, c'est ça.
Ça, effectivement.
On aurait pu jouer
un problème
peu plus
à ce niveau-là.
Ouais, au niveau du temporalité.
Espèce de logistique, temporalité.
Mais sinon, histoire comme histoire, l'histoire est vraiment excellente. Là. Puis, tu sais, inspirée de sa vie, je veux dire, c'est, comme vous dites, ça ne s'invente pas. Il y a des trucs qu'on voit là-dedans que c'est... Non, c'est vraiment bien fait. Je craignais au début le côté un peu trudgy, puis finalement, non, on va complètement dans un autre style, même si on peut dénoter
c'est comme
des ressemblances.
Un trudgy plus dramatique.
Ben, c'est ça, mais on peut même pas dire que c'est un trudgy, à part pour la narration.
C'est beaucoup moins drôle.
Le fait que ça se passe à Québec, je veux dire, tu sais, c'est ça, trudgy, c'était absurde et drôle. Je veux dire, la mère de Ricardo Trudgy, c'est juste pour moi, c'est ça. C'est...
Ah ouais.
Mais alors que là, tu sais, c'est un autre, mais j'ai l'impression qu'on part, on crée quelque chose de différent, puis ça, j'ai vraiment aimé ça parce que moi, je craignais que. Des fois, c'est facile de prendre la recette.
Mais dans la forme, on copie un peu, avec la narration, le côté première personne.
Moi, je dirais pas copier, mais je dirais plus qu'on se rapproche de, parce que dans le sens où, tu sais, c'est pas parce qu'une personne a décidé de faire une narration que nécessairement qu'après ça,
c'est pas un brevet,
il n'y a pas de brevet. Puis, mais c'est sûr qu'on est dans une formule qui se rapproche de ça. Puis, mais je sais pas pourquoi, mais quand je regardais le film, je trouvais que ça ressemblait à plein d'autres films québécois. Il y avait un feeling qui ressortait de tout ça.
Beaucoup d'influence, peut-être.
Que je voyais beaucoup d'influence d'autres films québécois. Puis je trouvais ça un peu bizarre, en fait. Mais c'est pas nécessairement mauvais. Mais je trouvais ça m'a un petit peu fait « Ah, mais à mon dos, je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling d'avoir déjà vu quasiment certaines scènes, tu sais, même si... »
Un genre de film agrégateur, là.
Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais ça m'a un petit peu posé quelques questions.
Il y a beaucoup d'éléments typiques d'un film québécois qui se retrouvent dans ce film-là, au niveau des dialogues, au niveau sais, je pense à l'affaire avec les pancartes de politique là, au début.
Ouais,
tu sais,
ouais, ouais.
On est dans le connu.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de les faire parce que de toute façon, quand c'est autobiographique.
C'est correct de faire des clés d'œil à d'autres films.
Mais c'est ça. Puis quand on est dans l'autobiographie aussi, je ne veux pas, ça fait partie de ce que tous les jeunes Québécois dans ces années-là ont vécu.
Je suis d'accord.
Je
suis tout à fait d'accord.
On parle d'un genre de film. Au début, je me suis dit, bon, on ressemble un peu à Dazed and Confused, le film des années qui se passe dans les années 70, version québécoise, dans le sens qu'on a des jeunes ados qui fument du pot, qui décident de vendre un peu parce qu'ils veulent pas fumer, ils veulent pas payer leur pot. Je me dis, OK, on s'en va là-dedans. Non, mais on n'en parlera pas. Mais la chute de ce film-là, moi, ça m'a complètement renversé.
Ben, moi, j'avais vraiment le goût que tu aies voir ce film-là. Puis toi aussi, François. De quelle façon on aborde le concept de la drogue dans ce film-là, d'une manière un peu moralisatrice, mais avec des faits, avec des... pour une fois, on arrive à vraiment montrer toute l'espèce de tentacularité de cet univers-là du crime ou de la du petit crime ou de la drogue.
Oui, parce qu'ils commencent avec du pot puis ils finissent par vendre
exactement.
Des buvards.
Ils finissent par consommer puis on dira pas tout parce qu'on veut pas tout dire, mais en gros, puis de se frotter à des gens un peu un peu tout croche, puis tu sais, le danger qui vient avec ça, puis l'espèce de folie de l'argent aussi, puis l'espèce de... Je trouve que ce film-là va vraiment nous montrer un portrait de cet univers-là vu par des enfants, des ados, des jeunes adultes, d'une manière qui, à mon sens, est complète. Ça, c'est vraiment, vraiment très fort.
Parce que c'est vrai, ça revient à la discussion qu'on a eue il y a quelques semaines. Je pense que quand on a une histoire basée sur vrai, il y a quelque chose qui ne s'invente pas, dans le sens que je ne pense pas qu'aucun adulte aurait pu écrire ce film-là en se mettant justement, en montrant ce côté, comme tu dis, tentaculaire, mais sans être de façon morale. Parce que c'est pas moralisateur, le ton n'est pas moralisateur. On fait juste... montrer une situation.
On montre les scènes, mais nous-mêmes, la morale apparaît dans les faits.
C'est
l'épreuve des faits.
C'est ça qui est phénoménal.
On parlait du film là, réalisé, autoproduit, autoréalisé par un jeune réalisateur du Lac Saint-Jean. On se souvient-tu du nom de ce film-là?
Ça semble être un nom.
Arnaque, mais il me semble...
En tout cas, je pense pas, mais bref, c'est sorti l'année dernière, un film entièrement produit, réalisé, financé par un jeune adulte du Lac-Saint-Jean qui traite de fraude. Et ce film-là...
Qui était basé aussi sur
des faits réels, qui a lui-même vécu. Je trouve que ce film-là, qu'on vient d'aller voir, là, La vie à 100 000 à l'heure, Vivre à 100 000 à l'heure, c'est à la drogue ce que le film du Lac-Saint-Jean est à la fraude. Les deux ont réussi à nous montrer l'intégralité de cet univers-là dans un angle... vraiment impressionnant,
qu'on n'a pas la
chance de voir. C'est vraiment, ça vaut la peine de voir.
Je pense que ça fait en sorte qu'on pardonne plus les défauts qu'on pourrait avoir sur le film.
Ouais. Tu as tout à fait raison. Parce qu'il y a de l'originalité là-dedans.
Ouais.
Parce que...
Moi, je trouve que, je veux dire, j'ai été captivé par l'histoire. Mm-hmm. Ça m'a pris du début jusqu'à la fin. J'étais dedans. J'ai pas eu de moment où j'ai quitté tant que ça, mais malgré le fait que, justement, on a parlé de quelques petits défauts, quelques petits points faibles quand même qui nous ont accrochés un peu pendant le film, mais malgré tout, je suis resté à travers... L'histoire était là, puis je suis resté intéressé par l'histoire, puis j'ai passé un super bon temps.
Ouais. Moi aussi, exactement. C'était pas long. Ouais. C'est 1h30, le film.
C'est 1h40, je pense.
Ça coulait, c'était pas... quelques longueurs un peu plus vers le début, mais rien de majeur.
À peine, là, c'est ça. Donc, ça passe super bien, puis t'es dans l'histoire, même si tu fais par-ci par-là, il peut y avoir des petites affaires qui accrochent un peu, ça marche super bien, puis tu passes un super de bon temps, au final.
Vraiment.
Absolument.
C'est ça qui est important aussi, tu sais.
Oui, au c'est final, ça. C'est l'immersion.
Il y en a qui ont pas. Tu sais, il y a des films, des fois, il n'y a pas vraiment d'accroche. Vraiment, tu regardes vite, puis tu dis, le film marche, il n'y a pas vraiment de problème, mais il ne réussit pas nécessairement à transmettre ce qu'il veut transmettre. Mais là, dans ce cas-ci, c'est peut-être l'inverse. Oui, on voit que c'est un peu. Pas toujours parfait, mais c'est pas nécessairement... Mais le but de ce film-là marche, ça fonctionne. Ouais. le message, le but de ce film-là, ça fonctionne à 100%, ouais. À 100 000 à l'heure même.
À 100 000 à l'heure. C'est peut-être la rédemption du cinéaste aussi, de vouloir lui-même faire la paix un peu avec son passé.
C'est que de ce que j'ai pu lire un peu rapidement sur le sujet, c'est qu'en fait, il ne voulait pas faire ça pendant que sa fille était trop jeune, premièrement.
Ah oui, pas qu'elle sache toutes les.
Puis deuxièmement aussi, c'est que. Oui, pas toutes les trucs. Oui, ouais, elle sait comment faire maintenant. Mais il y a aussi le côté de dire. Je veux pas, pendant que je suis un réalisateur qui est en train de monter, montrer ma jeunesse puis montrer mes vulnérabilités.
Vulnérabilité.
Oui, tout à fait. On sent qu'on est vers la fin.
Contrairement à être Todji, lui, qui a fait « Ben, voici mon enfance », puis là, 5 ans après, il a fait « Ben, ça, c'est mon adolescence, puis ça, c'est ma vie adulte. »
Ouais, exactement.
Mais ce film-là, je le recommande, moi, ado en montant, puis j'y donne facile un 8 sur 10.
Oui.
Moi, je donne un 8 sur 10. C'est un bon film.
Aussi la note que je donne à ce film-là.
Ben voyons donc. On ne s'est même pas parlé avant.
Ben non, c'était incroyable.
Je dirais, les ados, là, allez-y. Ouais.
Ouais, ça, ouais, honnêtement, ouais.
Tout à fait.
Ça vaut la peine. Ça montre la vie peut-être d'une vraie façon que même les gens qui essaient de vous moraliser ne pourront pas vous montrer.
Ouais.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce Ciné Brunch. Mon nom est Jim Boulay, François Genet, Mélina Lopez-Nadeau, merci d'avoir été là comme chaque semaine. Vous pouvez nous réécouter en rediffusion sur notre site web cinébrunch.com en tout temps et tous nos épisodes précédents. Sinon, on est en rediffusion le mardi à midi. Bon, j'ai appris qu'on était rendu à midi. Et sinon, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, pour un autre Ciné Brunch. À la semaine prochaine, tout le monde.
À la semaine prochaine.